Nous allons parler, mesdames, messieurs, de l'empire du milieu. C'est ainsi qu'on considérait la Chine il y a très longtemps, et c'est un peu la façon dont on a caractérisé son évolution et son incroyable éclosion. Mais ça ne va pas très bien non plus en Chine. Si vous pensez que les Chinois, d'abord, ont résolu complètement la pandémie, non. Ils n'ont jamais autant testé qu'au cours des 4 derniers jours la population de Wuhan. D'où est partie, semble-t-il, cette pandémie? Population inquiète, heureuse de retrouver une certaine liberté, mais toujours à l'affût peut-être d'une autre vague. Nous allons parler de la Chine avec Loïc Tassé, grand spécialiste. Loïc, bonjour.
Bonjour, Paul.
Je pense ne pas me tromper en disant que ça va pas si bien en Chine en ce moment.
On le sait ou on le sait pas. La Chine, effectivement, va pas si bien, mais elle va beaucoup mieux qu'elle allait. On parlait de Wuhan, par exemple, et Wuhan avait un très grave problème. Le gouvernement, en fait, a confiné Wuhan en littéralement fermant des quartiers. Ils ont soudé la porte de certains immeubles pour que les gens ne puissent pas sortir. Et donc, on se retrouve maintenant avec une situation meilleure. Les gens peuvent sortir. À Wuhan, il n'y a plus de confinement, mais il y a d'autres villes où il y a un nouveau confinement. C'est moins dur que ce qu'il y avait auparavant, mais quand même, ce confinement existe.
Oui, c'est certainement mieux qu'en Europe ou en Amérique en ce moment.
C'est mieux qu'en Europe et en Amérique, et plus que ça, économiquement, ça va mieux que ce qu'on pensait. Le FMI estimait qu'il y aurait environ moins 2% de croissance, donc ce serait de la décroissance de moins 2%, et le gouvernement chinois dit non, on va avoir en fait le contraire, on va avoir 2% de croissance.
Ouais.
Et ce qui va croître très fortement, c'est toute l'industrie digitale. On s'aperçoit d'ailleurs en Chine depuis quelques années que cette industrie digitale de l'informatique avec le 5G crée énormément d'emplois, beaucoup plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Et donc le gouvernement fonce à pleine vitesse dans cette direction.
C'est intéressant ce que vous dites parce que on avait aussi dans certaines régions des catastrophes littéralement économiques. Beaucoup de petites entreprises qui avaient pris naissance au cours des 2-3 dernières décennies, ça n'existait pas avant, tout était contrôlé par l'État, bien ces petites entreprises ont bien de la difficulté à survivre et ça crée de nouveaux chômeurs.
Ça crée de nouveaux chômeurs, mais encore une fois, si on regarde sur le plus long terme, ces chômeurs-là sont absorbés par la 4e révolution industrielle, la révolution informatique, et là-dessus, les Chinois sont en avance sur le reste du monde. Par contre, vous avez raison, il y a eu de très mauvaises récoltes cette année, en particulier au centre de la Chine, où il y a eu des inondations, il y a eu de la sécheresse au nord, il y a eu de la grêle. Enfin, bref, il y a tellement de problèmes avec le circuit d'approvisionnement alimentaire en Chine que le gouvernement chinois a demandé aux citoyens de pas gaspiller l'argent. Ils ont fait une grande campagne contre le gaspillage. Or, ça touche quelque chose qui est vraiment très précieux pour les Chinois. C'est tout ce qui est la nourriture. C'est un des rares plaisirs où le gouvernement ne s'est jamais imposé véritablement.
Non.
Les Chinois vont au restaurant, ils commandent plein de plats, ils font des festins, ils adorent ça. Et le gouvernement leur a dit non, désormais, vous allez commander moins de plats qu'il y a de personnes, vous allez cesser de gaspiller, on va dénoncer les gens qui gaspillent. Et donc ça montre qu'il y a véritablement un problème au niveau agroalimentaire en Chine, par exemple.
Parlons maintenant du rayonnement international. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc, depuis le début de cette pandémie? Parce qu'elle a démarré à Wuhan fin décembre, début janvier. La Chine, très critiquée, non seulement par Donald Trump, mais par Emmanuel Macron, par Boris Johnson et tout ça. Parlez-nous du rayonnement international de la Chine alors que les économies mondiales occidentales sont sur le bord de l'effondrement. Est-ce que vous pensez que ça sert les desseins du gouvernement chinois?
Ce qui se produit en ce moment en Chine, c'est que le gouvernement chinois, c'est surtout le gouvernement de Xi Jinping, est un gouvernement qui est extrêmement autoritaire et qui devient même totalitaire. On a vu que le gouvernement chinois essayait d'émettre un bulletin social, il y arrive d'ailleurs à tous les Chinois, c'est-à-dire qu'il les surveille littéralement 365 jours par année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et à la fin de l'année, il leur donne un bulletin, comme on donnerait un bulletin à un enfant, en disant « oui, vous avez bien, vous êtes bien comporté politiquement, non, vous êtes mal comporté ». Et donc, ce qui se produit, c'est que les Chinois sont sous l'emprise de ce régime très autoritaire, ils vivent une certaine terreur, et le gouvernement de Xi Jinping lui-même va plus loin que ça, il est en train, à ton impression, de retourner à un certain maoïsme. C'est-à-dire que le gouvernement chinois est en train de réorienter la Chine vers ce qu'on peut appeler véritablement une autonomie, une autosuffisance, et on veut que d'ici 2025, 80% des produits consommés en Chine soient produits en Chine, mais on veut aussi, en même temps, libérer les forces des masses dans l'entrepreneuriat et on veut développer toute une partie de la Chine qui n'a pas été développée. On parle de 700 millions de personnes. Il y a 700 millions de personnes qui ont un niveau de vie qui ressemble beaucoup au nôtre et il y a 700 millions de personnes qui ont un niveau de vie qui est très très faible.
Exactement.
Donc on veut développer ça.
Il y a encore une Chine très rurale. Et
très
ça,
rurale.
Vous pouvez vous éloigner d'une grande ville. Et qu'est-ce que c'est une grande ville en Chine? C'est 15 millions
d'habitants. Oui, oui.
Mais vous sortez une heure passé ces grandes villes, immédiatement vous tombez dans un autre monde.
Oui, et c'est le tiers monde, enfin, c'est des pays en voie de développement, littéralement. Donc, mais je disais ça pour vous dire, en ce moment en Chine, donc, on ferme les frontières aux importations, à certaines importations, et on veut exporter davantage. En Chine, on a donc un ton diplomatique qui est de plus en plus agressif, de plus en plus nationaliste, qui ressemble de plus en plus à celui qu'avait Mao Zedong dans les années 60-70 même. Et donc, effectivement, ça donne une diplomatie très agressive, ce qu'on a appelé la diplomatie des loups. Ça amène, par exemple, l'ambassadeur chinois au Canada à dire aux Canadiens « Attention, si vous acceptez des réfugiés de Hong Kong, il y aura des conséquences. » Alors qu'on sait très bien qu'à Hong Kong, il y a une loi affreuse sur la sécurité qui fait en sorte que même moi, qui en ce moment suis en train de vous parler de la Chine et de critiquer le gouvernement chinois de Xi Jinping, je pourrais... Si j'allais à Hong Kong ou si j'allais en Chine, je pourrais être jeté en prison sans aucun doute parce que j'ai osé critiquer l'extraordinaire, le merveilleux Xi Jinping. Et même, à la limite, le gouvernement chinois pourrait demander mon extradition du Canada.
Mais c'est peut-être ce qui explique. C'est peut-être ce qui explique en ce moment, Loïc, que Pékin, le gouvernement de Xi Jinping, se trouve de plus en plus isolé dans le sens que on est méfiant de ce fameux programme qui avait été lancé là, de collaboration à différents projets de développement dans plusieurs pays, qu'on appelle les routes de la soie, qui a été lancé en 2013. Mais regardez encore cette semaine, on dit que dans un contexte de tension, parce qu'il y a une tension entre le Canada et la Chine en ce moment, le gouvernement fédéral qui craint des enjeux de sécurité nationale liés à la présence de cette entreprise de Hong Kong dans le projet d'agrandissement là, du port de Québec.
Avec raison. Le gouvernement chinois place ses billes. Vous savez, c'est ce grand jeu de... Vous connaissez le jeu de Go, on place des pierres noires et des pierres blanches et on agrandit son territoire. Le gouvernement chinois fait la même chose à l'échelle mondiale. Il place ses pierres de façon à les relier les unes avec les autres. C'est le projet des routes de la soie. Et ce projet des routes de la soie est porté, entre autres, par la cinquième génération, bien sûr, en informatique, mais c'est porté aussi par tous les surplus chinois. Et le gouvernement chinois veut écouler ces surplus de production dans le reste du monde. Il veut en même temps connecter davantage la Chine à tous les produits dont il a besoin pour ses importations, surtout les matières premières. Il veut aussi envoyer de plus en plus de services à l'étranger. Il va y avoir un surplus d'offres de services en Chine et les Chinois vont donc être de plus en plus présents à travers le monde, à travers, entre autres, la technologie du 5G, dans les entreprises mondiales, dans les ports, dans tous les services. Il faut s'attendre à avoir une présence chinoise de plus en plus grande. En tout cas, les Chinois vont pousser pour qu'il y ait une présence de plus en plus grande.
Mais vous savez ce qui est ironique dans tout ça, Loïc, c'est que quand la pandémie s'est amenée ici, en Europe, puis ensuite en Amérique. Donc, à la mi-mars, on a réalisé que face à une crise semblable, à quel point nous étions dépendants de la Chine. Oui. Et la Chine surveille toujours ce qu'on dit d'elle, surtout le gouvernement, évidemment. Alors, on s'est aperçu qu'on dépendait de la Chine pour des masques, pour du matériel essentiel. Donc, il y avait un peu une réticence à trop vouloir pousser, même si, je le disais tout à l'heure, la France a été critique, le Royaume-Uni a été très critique. Là, évidemment, Trump appelle ça le virus chinois, ce qui déplaît énormément à Xi Jinping. Mais vous voyez que les relations aussi entre Ottawa et Pékin ne sont pas meilleures.
Non, non, elles ne sont pas meilleures. Et c'est la même chose avec le reste du monde. Sauf peut-être certains pays d'Asie, certains pays très particuliers comme l'Iran, le Pakistan, qui ont d'excellentes relations avec la Chine. Mais pour le reste, effectivement, les gens se méfient de la Chine parce qu'en plus, les Chinois n'ont pas donné tout le matériel, n'ont pas vendu tout le matériel qu'ils avaient promis. C'était du matériel de mauvaise qualité. Et on s'est rendu compte, effectivement, comme vous le dites, qu'on était devenu très dépendant.
Oui.
Résultat, les Chinois, eux, poussent une très grande globalisation. Ils sont pro-globalisation comme ils n'ont jamais été, et les autres pays, en particulier les pays démocratiques industrialisés, disent « attention, la globalisation a été un peu trop loin, il faut revenir peut-être à une certaine régionalisation, tout au moins dans les produits stratégiques ». Et donc effectivement, il y a une tension entre ce que la Chine veut, c'est-à-dire une mondialisation de plus en plus grande, et ce que les pays développés démocratiques sont en train de faire, c'est-à-dire de se regrouper, de régionaliser parce qu'on est trop dépendants les uns des autres et que si la chaîne de production est brisée à un certain endroit, par exemple par une pandémie, alors tout le monde en souffre.
Et exactement. Et la Chine avait cette possibilité de tenir en otage ou enfin de museler les nations occidentales qui...
Elle essaie de le faire.
Oui, c'est exactement.
Elle essaie de le faire, mais il ne faut pas se laisser faire. C'est exactement... Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce que si on se met à parler avec le langage de la Chine, si on se met à faire comme si la Chine était une démocratie, comme si c'était un régime normal, comme s'il était normal de surveiller ses citoyens comme des enfants, à ce moment-là, on leur donne raison, d'une certaine manière. Il ne faut pas faire ça.
Ouais.
Il faut dire, non, c'est un pays totalitaire maintenant, c'est un pays où le Parti communiste dirige toute l'économie, tout ce qui est important dans l'économie. Ça signifie que nos entreprises ne peuvent pas concurrencer les entreprises chinoises au même titre que les entreprises chinoises peuvent concurrencer les entreprises occidentales. Donc, tant que ça c'est pas réglé, il n'y a pas de raison de considérer que la Chine est un pays normal. Et nous avons toutes les raisons de critiquer ce qui se passe en Chine.
Intéressante conversation qui doit s'arrêter. Ça me rappelle quand on était enfant.
Longtemps.
Oui, mais Madame Parisien, qui est à peu près de mon âge, aussi a dû entendre. Quand on était sur les bancs d'école dans les années 60...
On achetait des petits Chinois.
Tassé, oui, on achetait les âmes des petits Chinois, voilà. Mais plus que ça, on appelait ça le péril jaune.
Oui.
Ben voilà.
Mais enfin, je ne voudrais pas parler du péril jaune. Moi, je parlerais plutôt du péril de Xi Jinping. Qui est vraiment... Parce que je pense que les Chinois sont comme vous et moi. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui cherchent à envahir.
Pas du tout.
Le Parti communiste chinois, dirigé par Xi Jinping, a pris vraiment une tangente extrêmement dangereuse.
Mais très important de faire la distinction.
Ce que je trouve intéressant, Loïc, c'est quand vous dites que les Chinois sont pro-globalisation comme ils ne l'ont jamais été, alors que nous autres, on essaie tous de se dire il faut être moins dépendant que...
Nous sommes très panier bleu.
Oui, c'est ça.
Oui. Mais remarquez qu'ils sont pro-globalisation pour exporter leurs produits. Mais ils ne veulent pas en importer.
C'est ça.
Sauf les matières premières.
Fascinant. Merci beaucoup, Loïc Tassé.
Merci.
Je vous en prie.
Au revoir.